roi et ses 10 filles. Oh, ce n'était pas une famille royale comme vous l'imaginez. Ils avaient des queues de poisson en guise de jambes et vivaient dans un magnifique palais de corail au fond de la mer la plus profonde du monde. Le roi Triton était le roi des océans et ses 10 filles étaient les plus jolies sirènes que le monde de la mer ait connues. La plus jeune d'entre elles s'appelait Ariel. C'est elle dont j'aimerais vous raconter l'histoire aujourd'hui. Si Ariel était d'une beauté et d'une grâce infinie, c'était aussi la plus indisciplinée et la plus fantasque des filles de Triton. Alors que ses sœurs vivaient heureuses parmi les poissons et les coquillages, Ariel ne rêvait que d'une chose, quitter la vie sous-marine pour vivre dans le monde des humains. Pour ses 16 ans, il lui avait été permis de monter à la surface découvrir cet autre monde et depuis, la petite sirène se languissait de pouvoir un jour y remonter. Elle avait tant aimé ces immenses bateaux, le bruit des vagues, la douceur du sable de la plage, le château sur la falaise et surtout, surtout, voir danser des hommes, des femmes et des enfants sur de vraies jambes. Depuis, avec son ami Polochon, le poisson lune, elle arpentait les fonds marins à la recherche de vieilles épaves échouées et collectionnait tous les objets terrestres qu'elle pouvait y trouver. « Oh, regarde Polochon là-bas, une nouvelle épave, allons-y !»
« Ariel, tu es sûr que c'est sans danger ?»
répondit Polochon.
« Cet endroit est sinistre, elle ne me dit rien qui vaille. Et s'il y avait des requins ? Et puis tu sais ce qu'a dit ton père, il ne veut plus que tu t'intéresses aux humains. S'il savait que nous sommes ici ?»
Ariel l'interrompit. « Polochon, regarde !» Elle brandit une fourchette. « Mais qu'est-ce que c'est ? Il faudrait demander à Eureka, le goéland. Il saura sûrement nous dire à quoi ça sert. Oh, et ceci ?» Elle ramassa une pipe et souffla dedans, provoquant un nuage de bulles. « Oh, Polochon, j'aimerais tellement habiter le monde des hommes. Il est si fascinant. »«
Moi, je voudrais parcourir le monde. Moi, je voudrais voir le monde danser, le voir marcher sur ses... Comment ça s'appelle ? Ah, qui est... On ne va nulle part en battant des nageoires. Il faut des jambes pour sauter, danser, flâner le long de ses... Comment ça s'appelle ? Si l'homme marche, si l'homme court, s'il veut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais, si je pouvais partir là-bas, je donnerais...
Bonjour Eureka, s'exclama Ariel en nageant jusqu'au rocher immergé sur lequel était perché son ami le goéland.
Bonjour Ariel, bonjour Polochon. Alors les amis, qu'avez-vous trouvé d'intéressant aujourd'hui ?
Ariel tendit d'abord la fourchette à Eureka.
Oh, mais c'est tout à fait fascinant ! Une circonflexe ! Je n'en ai pas vu depuis longtemps. C'est un objet de grande valeur. Les humains l'utilisent pour brosser leur chevelure.
Une circonflexe ? Je vais l'ajouter à ma collection. Et ceci, Eureka, tu sais ce que c'est ? Ariel tendit la pipe au goéland.
Oh, un objet très rare également. C'est une bigette. Cela sert à faire de la musique.
De la musique ? Oh mon Dieu, Polochon, il faut rentrer immédiatement au palais. J'ai oublié le concert que donne père. Je suis censé chanter avec mes sœurs. Oh, il va être furieux. Eureka, merci encore pour ces expertises et à bientôt.
Et la petite sirène disparut dans les flots, suivie du poisson lune.
Le comité d'accueil au palais ne fut pas des plus chaleureux. Dans la grande salle de bal, assis avec raideur sur son trône de corail, le roi attendait Ariel. À sa droite, le crabe Sébastien, son plus proche conseiller, se rongeait les pinces, la mine penaude.
« Ariel, peut-on savoir où tu étais ? Tu te rends compte que tu nous as tous humiliés par ton absence au concert. Toi, la plus belle voix de tout mon royaume. Quant à toi, Sébastien, tu étais chargé de veiller sur Ariel. Où étais-tu ?
Oh, père, je suis désolé. Et Sébastien n'y est pour rien. Il n'aurait jamais pu me trouver. Je suis monté là-haut.
Comment ? Mais ma fille, tu es folle. Tu dois cesser cette lubie pour les humains immédiatement. Les humains sont dangereux. Ils mangent les poissons. Ils détruisent nos océans en y jetant toutes leurs immondices.
Mais père, comment est-ce que des personnes qui fabriquent d'aussi beaux objets pourraient être mauvais ?
Ariel, il n'y a pas de discussion possible. C'est un ordre. Dorénavant, je t'interdis catégoriquement de monter là-haut.
Et le roi s'adressa au crabe.
Sébastien, à partir de ce jour, tu ne quitteras plus Ariel d'une nageoire.
Bien sûr,
répondit Sébastien, toujours penaud.
Allez, Ariel, je te raccompagne à tes appartements.
Oh, Sébastien, soupira Ariel en rentrant dans sa chambre. Je ne comprends pas mon père. Je m'ennuie tellement ici.
Ariel, écoute-moi. Le monde humain, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi, t'aimerais bien vivre sous terre. Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours. Mieux tu ne pourras pas trouver. Sous l'océan, tout c'est bien mieux. Tout le monde est heureux sous l'océan. Là où il bosse toute la journée, esclavagé, prisonnier. Pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan.
Alors que Sébastien s'évertue à convaincre Ariel des avantages de la vie sous-marine, une ombre gigantesque plongea tout le château dans la pénombre.
« Oh, un navire !» s'exclama Ariel. « Et il passe juste au-dessus de nous. Il faut que j'aille voir. »«
Ariel !»
cria Sébastien.
« Il en est hors de question. Reviens immédiatement. Tu as entendu ton père ?»
Mais eut le beau crier, Ariel était déjà loin, ou plutôt déjà haut. Elle sortit prudemment la tête de l'eau. Depuis sa visite au Goéland, le ciel s'était recouvert de gros nuages noirs et une tempête se préparait. En peu de temps, le navire commença à basculer d'un flanc à l'autre, bousculé de plus en plus fort par la force des vagues. Soudain, quelqu'un s'écria
« Un homme à la mer !»
Ariel aperçut alors un homme se débattre dans les flots avant d'être avalé par une énorme vague. Sans hésiter, elle plongea. Pendant une nuit entière, elle se battit contre la tempête pour sauver le jeune homme. Au petit matin, après plusieurs heures de recherche, Polochon et Sébastien retrouvèrent enfin Ariel et le jeune homme sur une plage, épuisé mais vivant. L'humain semblait inconscient. Ariel, allongée près de lui, fredonnait une chanson en lui caressant les cheveux. C'était le premier humain qu'elle voyait de si près, et la petite sirène tomba amoureuse.
Mon seul désir, vivre à tes côtés. Mon seul espoir, rester là près de toi, te regarder me sourire, tendre les bras. Loin de la mer et pour toujours, vivons sur terre et vont au grand jour. Ne m'oublie pas, l'amour est là pour toi et moi.
Bientôt, on entendit des voix à l'autre bout de la plage. Des serviteurs du palais se précipitèrent vers le jeune homme inanimé.
« Oh mon Dieu, il est là! Le prince Eric est là! Venez vite! Pourvu qu'il soit encore vivant !»
Ariel avait tout juste eu le temps de replonger dans la mer. Depuis le large, elle put voir les serviteurs du palais emporter le prince, sain et sauf.
« C'est donc le prince qui vit dans ce magnifique château que je viens de sauver ?»«
Eric, » dit-elle d'un air rêveur,
« il faut que je le revoie. » Mes peurs ne voudra jamais me laisser revenir à la surface. Oh, c'est décidé. Je vais aller voir Ursula, la sorcière des mers. Elle seule pourra m'aider.
La sorcière des mers était une abominable créature. Moitié femme, moitié pieuvre. Elle vivait dans un cimetière marin, au milieu de milliers de squelettes de poissons et d'algues carnivores, entourée de ces deux horribles murènes qui faisaient office d'animaux de compagnie.
Ariel, ma chérie,
s'exclama Ursula avec un sourire diabolique.
Je t'attendais.
Vous m'attendiez?
Évidemment. Tu penses bien que tout le monde de la mer est déjà au courant. Comme c'est touchant. Une sirène amoureuse d'un humain. Mais vois-tu, je te comprends. Alors je sais ce que c'est d'être différent et rejeté des autres. Aussi, j'ai décidé de t'aider et de passer un pacte avec toi. Je vais te donner des gens.
C'est vrai? Oh, merci. Merci, Ursula.
Pas si vite, jeune fille. Tu ne garderas tes jambes que 3 jours. Ainsi, tu pourras aller voir ton beau prince. Mais avant la fin du 3e jour, au coucher du soleil, le prince devra t'avoir embrassé d'un vrai baiser d'amour. Sans quoi, tu redeviendras sirène et tu m'appartiendras. Oh, bien sûr, il y a un prix à payer en échange de tes jambes. Je ne te demande qu'une minuscule petite chose. Une babiole, en vérité. Je ne te demande que ta voix. Oh, je te la rendrai si tu réussis, bien sûr. En attendant, je la garderai bien au chaud dans ce coquillage.
Ma voix ? Mais sans ma voix, comment le prince pourra-t-il tomber amoureux de moi ?
Voyons, ma fille, tu es belle, tu as de l'allure, du charme.
Bien, j'accepte.
Et c'est ainsi que notre petite sirène se retrouva sur la plage où elle avait laissé son prince quelques jours plus tôt avec deux belles jambes à la place de sa queue de poisson. Or, justement, le prince Eric passait par là. Depuis quelques jours, il avait pris l'habitude de parcourir les plages de son royaume à la recherche de la mystérieuse jeune fille qui lui avait sauvé la vie et dont il ne se souvenait que de la voix merveilleuse. Quand il aperçut Ariel, il fut plein d'espoir.
Bonjour, je peux vous aider, mademoiselle ?
Vous semblez en difficulté. Ariel avait réussi à se vêtir avec une vieille voile de bateau et une corde, et le résultat n'était pas du plus grand effet. Hélas, Ariel ne put répondre puisqu'elle avait donné sa voix à la sorcière des mers. Elle tenta d'expliquer à Eric qu'on lui avait pris sa voix, à grand renfort de gestes et de signes, mais en vain.
« Oh, vous ne pouvez pas parler ?
Ce n'est donc pas vous, soupira-t-il.
Mais venez avec moi, vous avez besoin de soins, on dirait. »
Et c'est ainsi que le prince emmena la petite princesse des mers avec lui dans son château. Quelle surprise quand Ariel réapparut devant Eric quelques heures plus tard, vêtue d'une jolie robe, coiffée et parée de son plus beau sourire. Le prince fut émerveillé par sa grâce et sa beauté. Il s'attacha très vite à cette belle jeune fille. Il émanait d'elle un tel enthousiasme, une telle spontanéité. N'oublions pas qu'Ariel découvrait le monde pour la première fois. Le prince ne fut pas long à tomber amoureux d'elle. Le deuxième jour, il l'emmena faire une promenade romantique en barque sur un ruisseau près du château. Sébastien et Polochon avaient pu rejoindre le fleuve et avec l'aide des grenouilles, ils prirent les choses en main, organisant concerts et atmosphère autour de la barque des amoureux.
Prends-lui la main dans la douceur du lagon. Décide-toi mon garçon et n'attends pas demain. Elle ne dit pas un mot et ne dira pas un mot avant d'être embrassée. Chalalalala, n'aie pas peur, ne pense qu'au bonheur, vas-y, oui, embrasse-la. Chalalalala, n'hésite pas, puisque tu sais que toi, tu ne penses qu'à ça.
Malheureusement, Ursula veillait au grain. Depuis un miroir magique, elle suivait attentivement les progrès de la petite sirène. Au moment où le prince était sur le point d'embrasser Ariel, les deux vilaines murènes de la sorcière, qui s'étaient cachées dans un rocher tout proche, sortirent de leur tanière et renversèrent la barque, faisant tomber Eric et Ariel.
Elle est douée, cette petite princesse. Si Mémette n'était pas intervenue, elle aurait embrassé le prince. Il est grand temps que je prenne les choses en main.
Et à l'aide de potions et de sortilèges, elle se transforma en une ravissante humaine. Elle prit le coquillage qui renfermait la voix d'Ariel et l'attacha autour de son cou tel un collier. Il lui permettrait de prendre la voix de la petite sirène et surtout d'imiter la chanson d'Ariel, seul souvenir qu'Eric gardait de celle qu'il avait sauvée. Il ne lui restait plus qu'à se rendre au palais et séduire le prince. Quel malheur pour la petite sirène quand au soir du troisième jour, on lui apprit que le prince avait enfin retrouvé la jeune fille qu'il avait sauvée du naufrage, une certaine Vanessa, et qu'il s'apprêtait à l'épouser sur le champ. De son balcon, elle admira tristement le bateau aux mille guirlandes où devait se dérouler la cérémonie.
C'est fini, j'ai tout perdu. Mon prince, ma famille, mes jambes, je vais devenir l'esclave d'Ursula pour le restant de mes jours.
Pleura-t-elle. Elle vit alors Eureka le goéland voler vers elle. Il semblait fort agité.
Ariel, tu ne devineras jamais. Alors que je me posais sur le rebord d'un hublot sur le bateau d'Eric, j'ai vu par la fenêtre cette maudite Vanessa qui s'apprêtait dans sa cabine et...
Oh, Eureka, je t'en prie, ne me parle pas d'elle. Pas maintenant.
Non. Attends, écoute-moi jusqu'au bout. Dans son miroir, ce n'est pas son reflet que j'ai vu, mais celui d'Ursula, la sorcière des mers. Vanessa... Et Ursula ?
Oh mon Dieu, Eric, il va épouser Ursula. Merci, Eureka. S'il te plaît, va chercher du renfort. Je vais avoir besoin d'aide.
Et sur ces derniers mots, Ariel sauta par-dessus le balcon et plongea dans la mer.
Elle nagea sans relâche jusqu'au navire et réussit à se hisser à bord au moment où la cérémonie commençait. Il y eut soudain une immense cacophonie. Cris d'oiseaux, de dauphins, croassements de grenouilles, cela venait de partout. Animaux des mers et du ciel débarquèrent à bord du bateau dans une pagaille multicolore, faisant fuir prêtres, témoins et invités. Dans le chaos, on put voir Eureka arracher le coquillage autour du cou de Vanessa. Il se brisa. Ursula perdit sa belle voix et Ariel retrouva aussi soudainement la sienne. « Eric, je peux enfin te parler !» s'exclama Ariel. « N'épouse pas Vanessa, c'est une sorcière. C'est moi qui t'ai sauvé la vie. » Elle se jeta dans les bras d'Eric, qui réalisa alors que celle qu'il cherchait partout depuis le naufrage était à ses côtés depuis le début. Hélas, alors qu'Eric s'apprêtait à embrasser Ariel pour la seconde fois, les derniers rayons du soleil couchant s'évanouirent à l'horizon. Ariel s'effondra sur le ponton et sous sa robe, on put voir apparaître une queue de poisson. Au même moment, Ursula reprenait son hideuse apparence de pieuvre.
« Trop tard, ma belle ! Le soleil s'est couché et à présent tu vas partir. »
Heureusement, Sébastien avait prévenu le roi Triton. Alors qu'Ursula emmenait Ariel vers les profondeurs sous-marines, il s'interposa.
« Rends-moi ma fille, vilaine sorcière !»
gronda-t-il de sa voix tonitruante.
« Hélas, mon cher Triton, c'est impossible. Nous avons passé un marché avec Ariel et il est inviolable.
Alors prends-moi la place d'Ariel. Mais je t'en conjure, libère-la. »
Évidemment, Ursula avait toujours eu l'ambition de devenir la reine des océans, aussi elle accepta l'échange. Une fois en possession du trident et de la couronne des mers, elle se transforma en énorme monstre marin.
« Victoire ! Je suis enfin la reine de toutes les mers et de tous les océans. Je vais tous vous tuer !»
Mais alors qu'Ursula dirigeait son trident vers Triton et la petite sirène, Eric réussit à diriger la proue de son bateau vers la sorcière qui fut éventrée. Et tout est bien qui finit bien. Tout était sain et sauf et Triton retrouva son apparence et son trident. Constatant que sa petite fille aimait sincèrement ce prince humain et que cet amour était sans nul doute réciproque, Triton décida de transformer Ariel en humaine pour toujours. Ariel et Eric purent enfin se marier et ils eurent beaucoup d'enfants humains.